savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940.
Car depuis que s'est propagée chez nous la presse de scandale, vous sentez se développer dans l'opinion un goût du scandale. Tous les traits infamants sont soigneusement recueillis et avidement colportés.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Les événements bouleversants qu'a connu notre pays dans les premiers jours de janvier appellent, provoquent, exigent diverses mises en perspective. Au fil de nos prochains rendez-vous, je vous inviterai donc à considérer notamment, de samedi en samedi, les relations compliquées des religions révélées avec les images au long des siècles, l'histoire politique des défilés et des manifestations, la résurgence inattendue de la notion d'indignité nationale, la portée des caricatures dans les sociétés successives. Mais ce matin, je vous propose d'aller tout droit vers la question primordiale de la liberté de la presse et de ses inévitables limites. Son essor, en Occident et en France assurément, s'est trouvé lié de près avec celui de la démocratie. Patrick Evenot, professeur à la Sorbonne à l'Université de Paris 1, spécialiste de ces questions, est mon invité pour traiter de cette longue durée. Avec lui, nous allons vérifier que tant que les pouvoirs publics ont opprimé les journaux, dans l'inquiétude obsessionnelle de leur capacité de subversion, le combat était au fond assez simple, il était binaire. Il a connu un moment spasmodique en particulier lorsque le régime de la Restauration a été culbuté en juillet 1830 parce que Charles X a voulu fort imprudemment resserrer le joug jusqu'à l'extrême. Mais après que la Troisième République commençant a installé un régime de libéralisme résolu en juillet 1881, dans des conditions et selon des débats ardents que nous allons examiner de près, des interrogations étaient vouées à surgir bientôt sur la protection éventuellement nécessaire, mais jusqu'où, des individus, des groupes, des doctrines, des symboles, des religions. Rien de plus immédiatement actuel, comme bien vous voyez.
Les questions qui me hantent sont celles-ci. Premièrement, peut-on rire de tout ? Deuxièmement, peut-on rire avec tout le monde ? À la première question, je répondrai oui sans hésiter et je répondrai même oui sans les avoir consultés pour mes co-religionnaires en subversion radiophonique, Louis Régaud et Claude Villers. S'il est vrai que l'humour est la politesse du désespoir, s'il est vrai que le rire sacrilège blasphématoire que les bigots de toutes les chapelles taxent de vulgarité et de mauvais goût, s'il est vrai que ce rire-là peut parfois désacraliser la bêtise, exorciser les chagrins véritables et fustiger les angoisses mortelles, alors oui, à mon avis, on peut rire de tout, on doit rire de tout. De la guerre, de la misère et de la mort. Au reste, est-ce qu'elle se gêne, la mort, elle, pour se rire de nous ? Est-ce qu'elle ne pratique pas l'humour noir, elle, la mort ? Regardons s'agiter ces malheureux dans les usines. Regardons gigoter ces hommes puissants, boursouflés de leur importance, qui vivent à 100 à l'heure. Alors ils se battent, ils courent, ils caracolent derrière leur vie, et tout d'un coup ça s'arrête, sans plus de raison que ça n'avait commencé. Et le militant de base, le pompeux PDG, la princesse d'opérette, l'enfant qui jouait à la marelle dans les caniveaux de Beyrouth, toi aussi à qui je pense et qui a cru en Dieu jusqu'au bout de ton cancer, tous nous sommes fauchés un jour par le croche-pied rigolard de la mort imbécile et les droits de l'homme s'effacent devant les droits de l'asticot. Deuxième point, peut-on rire avec tout le monde ? C'est dur. Personnellement, il m'arrive de renacler à l'idée d'inciter mes zygomatiques à la tétanisation crispée. C'est quelquefois au-dessus de mes forces dans certains environnements humains. La compagnie d'un stalinien pratiquant, par exemple, me met rarement en joie. Près d'un terroriste hystérique, je pouffe à peine. et la présence à mes côtés d'un militant d'extrême droite assombrit couramment la jovialité monacale de cette mine réjouie, dont je déplore en passant, mesdames et messieurs les jurés, de vous imposer quotidiennement la présence inopportune au-dessus de la robe austère de la justice, sous laquelle je ne vous raconte pas. Attention, ne vous méprenez pas sur mes propos, mesdames et messieurs les jurés. Je n'ai rien contre les racistes, c'est le contraire. Comme dirait mon charmant ami le brigadier Georges Rabol, qui joue du piano ici tous les jours, et qui, je le précise, à l'intention des auditeurs qui n'auraient pas la chance d'avoir la couleur, est presque aussi nègre que pianiste. Dans une journée particulière, le film d'Ettore Scola, Mastroianni, poursuivi jusque dans son sixième par les gros bras mussoliniens, s'écrit judicieusement à l'adresse du spadassin qui l'accuse d'antifasciste. « Vous vous méprenez, messieurs, ce n'est pas les locataires du sixième qui est antifasciste, c'est les fascistes qui est anti-locataires du sixième. »
Patrick Evenot, bonjour.
Bonjour.
Vous aurez, j'en suis sûr, comme tous nos auditeurs, reconnu l'inimitable Pierre Desproges.
Bien sûr.
Qui était au tribunal des flagrants délires le 28 septembre 1982. Et il y a maintenant plus de 30 ans.
Oui, plus de 30 ans.
Et voici qu'il pose, en somme, beaucoup des questions qu'ont soulevé les assassinats de Charlie Hebdo et les drames contemporains, les drames tout récents.
La phrase de Desproges la plus souvent citée, c'est « on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui ». C'est évidemment tout le problème que pose cette possibilité d'être libre, d'avoir une pensée libre, une opinion libre, une expression libre, et en même temps de respecter les groupes, les individus. Mais c'était toute la tension que l'on retrouve dans toute cette histoire de la liberté de la presse, des médias, de la liberté d'information. C'est toute cette tension que l'on retrouve en permanence entre le respect des groupes et des personnes et la liberté d'expression.
Pendant longtemps, l'oppression de l'expression libre était telle qu'on ne s'est guère posé la question des limites, puisqu'il s'agissait d'élargir la latitude d'action pour tous ceux qui se sont battus à la fois pour la démocratie, la liberté de la presse. Donc, on a réfléchi en démocratie aux limites de façon, en somme, plus récente.
De façon beaucoup plus récente, mais le mouvement commence avec l'humanisme qui déjà dit « je peux penser, il peut y avoir contradiction ». Et puis c'est surtout l'époque des Lumières, bien sûr, hein, Voltaire, Diderot et les autres, qui mettent en scène, qui disent « il faut de la liberté ». On peut penser à Malesherbes sur la liberté de la presse, etc. Il y a donc toute une série de points qui se focalisent au moment de la Révolution française, où c'est à ce moment-là que la Déclaration des droits de l'homme déclare de façon fantastique hein, « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. »
L'article 11.
L'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme.
Mais si on s'arrête un instant sur l'époque des Lumières, on peut déjà probablement apercevoir cette contradiction entre l'aspiration à la liberté de tout dire et l'évidence qu'il doit y avoir des limites. Chez les philosophes Diderot, Voltaire et Rousseau, surtout les deux derniers, on rencontre à la fois combat déterminé pour la liberté de la presse. Ils entendent d'ailleurs plutôt la liberté des livres.
Oui.
Et d'autre part, une irritation telle à l'égard des gazettes qu'ils ont cédé eux-mêmes parfois la tentation de demander au pouvoir public de mettre les gazetiers en prison.
Oui, c'est toujours l'éternel problème de... on veut appliquer la liberté totale pour tout le monde, mais en même temps, dès qu'on risque d'être touché, critiqué, malmené par les gazettes, les fameuses gazettes, on a des tentations un tout petit peu répressives.
C'est Diderot qui écrivait dans son mémoire sur la liberté de la presse, 1763, qui écrivait « Entre les différentes causes qui ont concouru à nous tirer de la barbarie, il ne faut pas oublier l'invention de l'art typographique. Donc, décourager, abattre, avilir cet art, c'est travailler à nous y replonger et faire ligue avec la foule des ennemis de la connaissance humaine. » Il y a à la fois l'idée que toute société profite de la liberté et en même temps qu'il y a un lien entre la capacité d'expression, la liberté d'expression et l'évolution des technologies. Et c'est très actuel.
Oui, c'est très actuel parce que l'évolution des technologies, depuis maintenant 3 ou 4 siècles, c'est la possibilité de faire comprendre de plus en plus de choses à de plus en plus de monde. Et évidemment, on débouche maintenant sur la télévision, sur Internet, sur Twitter, Facebook et les autres qui permettent à tout le monde de s'exprimer et de communiquer avec le monde entier. On est vraiment dans le village-monde actuellement.
Nous allons sûrement, chemin faisant, avoir à nous demander ce qu'il y a de permanent à cet égard et ce que les nouvelles technologies peuvent apporter de liberté et de défis nouveaux pour le fonctionnement démocratique.
Oui, alors on va essayer de comprendre comment on peut à la fois tout dire et ne pas tout dire.
Et puis s'interroger sur cette limite qu'il y a entre l'autorisation du blasphème, c'est-à-dire s'en prendre à des religions, des doctrines de caractère général, et l'interdiction du racisme, de tout ce qui peut s'en prendre sous l'apparence d'une abstraction à des individus spécifiques.
C'est toute la tension actuelle qui existe dans la société française contemporaine. Est-ce qu'il y aurait deux poids, deux mesures entre les paroles de Dieudonné et les dessins de Charlie Hebdo? Est-ce que les dessins de Charlie Hebdo sont blasphématoires ou attentatoires à un groupe particulier que sont les musulmans? Est-ce que Dieudonné est raciste ou simplement exprime librement des opinions? Et là, c'est la tension véritable qu'on trouve actuellement et qui se diffuse évidemment dans toute la société par l'intermédiaire des médias électroniques.
Et cette tension, c'est elle que je voudrais examiner avec vous, Patrick Evenot, dans la durée de deux siècles, parce que l'on trouve l'émergence de cette différence progressivement et se dessine la frontière, qu'il est parfois difficile d'expliquer, en tout cas aux plus jeunes générations, entre ces deux types d'expression, l'une étant autorisée en démocratie et l'autre interdite. Vous évoquiez l'extraordinaire floraison de journaux qu'a permise la Révolution, en particulier dans les deux ou trois premières années, et déjà se posent des questions contemporaines.
En 1789, c'est l'explosion de la liberté, et donc un nombre de journaux, on les compte par centaines, qui s'arrêtent, qui reprennent, enfin bref.
500, dit-on.
Oui, plus de 500 à Paris, en province, partout. À chaque révolution, une explosion de la liberté. On le retrouve en 1830, en 1848, et à d'autres époques. C'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Seulement, on est dans une période extrêmement tendue. Pendant 3 ans, il y a une liberté quasi totale, jusqu'en 1792. Et puis ensuite, il y a tous les affrontements de la terreur et donc des allers-retours. Et on peut dire qu'entre 1789 et 1881, il y a quasiment un siècle de tension entre libération de la presse et répression sur la presse. Et c'est ce siècle qu'il faut peut-être explorer avant d'arriver à la loi de 1881.
D'ailleurs, c'est avant même la fin du XVIIIe siècle, au moment du Directoire, que se pose cette question de la liberté de la presse. Après les grands moments de liberté absolue de 1789 à 1793, après la répression de la terreur, sous le Directoire, on s'interroge. Et écoutez cette chanson qui s'appelle « Le 18 Fructidor » et qui est interprété ici par Robert Rocca, « La liberté de la presse ».
Le droit qu'on veut nous contester, c'est de publier ce qu'on pense. On a voulu le limiter sous le prétexte de licence. Si vous faisiez exactement vos devoirs par délicatesse, vous seriez sans ressentiment, vous seriez sans ressentiment. Sur la liberté de la presse, sur la liberté de la presse. Si quelque abus s'est introduit envers la liberté chérie, chacun devrait être réduit à la rigueur de ne rien dire. Vous voudriez nous opposer au droit qu'à celui qu'on oppresse. Et qui prétend tout exposer, et qui prétend tout exposer, par la liberté de la presse, par la liberté de la presse. N'est-ce pas un abus affreux auquel s'oppose la justice, d'entendre ce droit précieux qui seul aux mortels rend service? Quoi donc sert à les éclairer, même à les instruire sans cesse? Tout à la fois les amuser, tout à la fois les amuser. C'est la liberté de la presse, c'est la liberté de la presse.
Instruire Patrick Evenot et distraire en même temps, voilà déjà un duo qui est voué à durer.
Oui, les médias instruisent et distraient, et les médias informent et en même temps nous apportent peut-être un peu de plaisir. Mais on est en 1795 encore, et tout de suite après arrive Napoléon. Et Napoléon, c'est la censure, le retour de la censure, c'est l'interdiction. La censure a été très peu utilisée en France, à part les deux guerres mondiales et justement la période napoléonienne, c'est très très rare. Et ensuite, bon, Napoléon, c'est l'interdiction massive de journaux. Il ne faut pas oublier que c'est un dictateur, hein, même si c'était un grand héros des Français, c'est un dictateur fondamentalement.
Héros parfois discuté.
Oui, parfois. Et donc, les interdictions, et puis le rétablissement du brevet d'imprimeur pour contrôler les imprimeries, et puis ensuite toute une série de lois qui sont des lois financières, c'est-à-dire le cautionnement, le timbre, des lois postales qui limitent. Tout ça, c'est pour éviter que les pauvres, le peuple qui n'a pas beaucoup d'argent, achète les journaux. Et donc, on renchérit le prix par le timbre, par le cautionnement, par toute une série de choses. Et puis, il y a des amendes, il y a des procès, il y a des emprisonnements. Les journalistes sont fréquemment emprisonnés. Il y a même le quartier des journalistes, au bout d'un certain temps, sous le Second Empire, à Mazas. Enfin bon, bref. Mais ça se libère. Après 1815, Louis XVIII est un monarque plus tempéré et comprend qu'il ne peut pas revenir en arrière, revenir à l'avant 1789. Et donc, il essaye de lâcher un peu de lest, de donner un peu plus de liberté à la presse.
Une parenthèse, rappelez-nous ce que c'est que le cautionnement.
Alors, le cautionnement, c'est quand on ouvre un journal, il faut déposer auprès du Trésor public une somme très importante, des dizaines de milliers de francs or de l'époque, donc plusieurs millions d'euros actuels. Et si vous êtes condamné, on les confisque. Enfin bref, c'est donc le but de renchérir simplement la presse pour qu'elle ne soit pas diffusée dans le peuple.
Cette période de la Restauration, donc, qui va de 1815 à 1830, qui aboutit à la chute de Charles X, c'est le seul cas de chute d'un régime lié directement à la défense et l'illustration de la liberté de la presse. Ces 15 ans sont parsemés de moments de très vifs débats sur cette grande question. Chateaubriand s'exprime, bien qu'il fût lui-même très attaché au trône, il est extrêmement hostile à toute restriction de la liberté de la presse. Et on voit surgir aussi une opinion orléaniste à l'avance, ceux qui sont hostiles et qui vont soutenir Louis-Philippe à partir de 1830, tel Royer-Collard, par exemple.
L'idée de tous ces gens, c'est qu'il faut... D'un côté, il y a les ultras, ceux qui veulent rétablir une sorte de pouvoir absolu, qui passerait par l'étouffement de la presse. Et de l'autre côté, il y a les plus modernes, et donc qui vont être les orléanistes ou les autres, et qui se disent que il faut laisser la critique, parce que on voit bien que la démocratisation est en marche, même si on est encore à l'époque du suffrage censitaire et de lois extrêmement restrictives. La démocratisation est en marche, et si l'on veut que la démocratisation puisse s'accomplir, il faut évidemment que les citoyens soient informés et puissent en débattre. Et Royer-Collard, à ce niveau-là, est quelqu'un de très intéressant.
Eh bien, puisqu'il est intéressant, nous allons l'écouter dans un propos de 1822 sur la liberté de la presse. Il est lu par Georges Claes sur France Culture le 9 février 2014. Il faut préciser que quand il emploie l'expression, vous allez entendre, de publicité, il ne l'emploie pas au sens d'aujourd'hui, il veut dire la mise dans le public de telle ou telle idée ou de telle ou telle information.
Il faut considérer la liberté de la presse bien moins en elle-même que dans ses rapports avec le gouvernement et la société. Car s'il était reconnu que dans le gouvernement, la liberté de la presse a la valeur d'une institution et que dans la composition actuelle de la société, elle est une nécessité, les atteintes qui lui seraient portées ne seraient pas seulement une violation des droits privés, elles changeraient encore l'état du gouvernement et elles opprimeraient la société entière. Que la liberté de la presse ait ce double caractère d'une institution politique et d'une nécessité sociale, c'est ce qui ne peut être révoqué en doute. Du droit constitutionnel de chaque Français de publier et de faire imprimer ses opinions résulte la publicité universelle. La publicité est une sorte de résistance aux pouvoirs établis, parce qu'elle dénonce leurs écarts et leurs erreurs et qu'elle est capable de faire triompher contre eux la vérité et la justice. Elle est la plus énergique des résistances, parce qu'elle ne cesse jamais. Elle est la plus noble, parce que toute sa force est dans la conscience morale des hommes. Envisagée sous ce rapport, la publicité est une institution, une liberté publique, car les libertés publiques ne sont pas autre chose que des résistances. Qu'on ne se hâte pas d'accuser l'énergie de ce mot. Les résistances ne sont pas moins nécessaires à la stabilité des trônes qu'à la liberté des nations. Malheur aux gouvernements qui réussissent à les étouffer.
Alors, Patrick Evenot, il y a là l'exposé très clair des principes qui vont être sous-jacents dans tous les combats pour la liberté de la presse au XIXe siècle.
Oui, c'est un des premiers libéraux au sens du XIXe siècle du terme, hein, c'est-à-dire les gens qui sont à la fois pour la liberté économique, mais surtout pour la liberté politique. Ils pensent, avec Tocqueville, avec bien d'autres, ils pensent tous qu'on ne peut pas conserver un gouvernement stable si on ne fait pas participer plus ou moins le peuple, l'ensemble de la nation petit à petit, au système gouvernemental. Et donc l'idée fondamentale, c'est que finalement on va arriver à la démocratie, mais on va y arriver paisiblement par des chemins lents, sérieux. Nous sommes encore dans une France extrêmement bourgeoise et paysanne, et donc il faut laisser le temps au temps, comme aurait dit François Mitterrand.
Simultanément, on voit Royer-Collard, comme Tocqueville que vous citez, expliquer qu'il est impossible, en fait, de trouver un mi-chemin entre la liberté à peu près complète, au bout d'un certain temps, et la répression affirmant son autorité de façon impitoyable. C'est le même Royer-Collard qui disait « Une voie légale entre les deux termes, impunité et arbitraire, est impossible ». Ce propos a été cité au moment des débats sur la loi de 1880 auquel nous allons arriver. Et de même, Tocqueville écrivait dans « La démocratie en Amérique » qu'il n'est pas possible de trouver entre l'indépendance complète, je le cite, et l'asservissement entier de la pensée une position intermédiaire. S'il y en avait une, dit Tocqueville, je m'y établirais peut-être. Mais qui découvrira cette position intermédiaire ?
Il n'y a pas de position intermédiaire, il faut réfléchir peut-être au cas par cas, mais là on anticipe un peu sur la loi de 1881 et la suite. Je crois qu'il faut poser le principe, c'est, on voit bien en 1830, Charles X tombe parce qu'il a fait fermer des journaux, il a fait saisir des presses, etc. Véritablement, c'est à ce moment-là que les journalistes se mobilisent avec les politiques et aussi avec les typographes qui font des barricades, etc. L'alliance des ouvriers et des intellectuels, et qui renverse Charles X. Parce que la liberté de la presse, c'est la statut qui était érigé à l'époque, hein, en proclamant, elle éclaire le peuple et elle fait taire la rumeur. C'est véritablement ça qui permet d'aller vers une plus grande liberté, une plus grande culture politique. Et j'aimerais faire un bond, juste un bond très rapide, jusqu'à 1848, parce que...
Sautez, je vous en prie, Patrick Hebnet.
Et j'ai juste un extrait d'un discours de Victor Hugo à l'Assemblée nationale, le 11 septembre 1848. « Le principe de la liberté de la presse n'est pas moins essentiel, n'est pas moins sacré que le principe du suffrage universel. » C'est-à-dire qu'il n'y a pas de démocratie sans liberté de la presse, il n'y a pas de liberté de la presse sans démocratie. Et on arrive comme ça, ainsi, très rapidement, à la loi de 1881.
Mais avant de quitter cette période de la Restauration, je voudrais m'y arrêter encore un instant pour évoquer la loi de 1825 sur le sacrilège. C'est une loi qui n'a jamais été véritablement appliquée, mais qui est l'extrême pointe de l'affirmation que l'État doit défendre la religion. Et évidemment, sous la lumière d'aujourd'hui, c'est de grande importance.
Oui, alors ça, c'est la Restauration rétrograde, hein, si je puis dire. C'est l'époque de Charles X, de Polignac, etc. Il y a le célèbre texte de Paul-Louis Courier, « Les villageois qu'on veut empêcher de danser ». Enfin bref, l'Église apparaît comme le soutien de la monarchie qui veut redevenir absolue. Et donc, on veut interdire le sacrilège, on veut interdire toute une série de choses. Ce n'est évidemment pas possible parce qu'on est dans une société qui est de plus en plus alphabétisée, de plus en plus cultivée, même s'il y a encore beaucoup de progrès à faire. Et donc, on ne peut pas faire taire le peuple comme on pouvait le faire taire aux temps héroïques du Moyen-Âge que Charles X voulait retrouver.
Il y a en même temps, du côté du même Royer-Collard ou du protestant Benjamin Constant, l'affirmation qui ne revient pas. On retrouvera ça plus tard, et notamment en 1880, qu'il n'appartient pas au gouvernement des hommes d'assurer la justice pour protéger Dieu. Au moment de 1825, dans un autre discours célèbre, Royer-Collard disait « Sans doute, messieurs, l'outrage à Dieu est, en certaines circonstances, un outrage aux hommes. Mais l'outrage à Dieu et l'outrage aux hommes, ce sont deux choses si prodigieusement différentes qu'elles restent toujours distinctes. Il y a de l'une à l'autre la distance du ciel à la terre. J'ose avancer, c'est toujours Royer-Collard qui parle, que toute l'habileté qui a été déployée dans la défense du projet de loi devant l'autre chambre a consisté à confondre l'outrage à Dieu avec l'outrage à la société. Celui-ci punissable, celui-là inaccessible à la justice humaine.
Ça fait tout à fait penser aux caricatures de Charlie Hebdo, la fameuse caricature de Cabu, qui fait parler Allah en disant « Laissez tranquille, je suis assez grand pour défendre Mahomet moi-même ».
C'est exactement ça, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, certains membres du Parlement de 1825, qui étaient dans un catholicisme affirmé, par exemple Lamennais, disaient non, il ne revient pas à l'État de s'occuper de ces choses. Là, comme en 1881, on a abondamment cité la formule des anciens, c'est le cas en particulier du grand avocat Dupin aîné qui défend Béranger en 1821 parce que celui-ci est poursuivi pour des chansons supposées impies. Dupin dit « C'est une étrange manie que celle des hommes qui prétendent se constituer les vengeurs de la divinité. Les anciens, qui n'avaient pas le bonheur de connaître le vrai Dieu, avaient dans leur philosophie une maxime plus sage. Ils pensaient qu'il faut laisser aux dieux le soin de se venger eux-mêmes. » Et on le disait en latin, à l'époque on parlait latin, dans les tribunaux et à la tribune du Parlement, « Deorum injurias diis curae esse ». Il revient au Dieu de s'occuper des insultes, des offenses qu'on leur fait.
S'ils sont vraiment Dieu, ils ont les moyens de le faire.
Nous serons peut-être d'accord, Patrick Hebnaud, pour dire que ce propos a quelque résonance aujourd'hui.
Tout à fait, c'est exactement ce qu'il faut faire comprendre actuellement. Le blasphème, tout ce qui a trait à ce qu'on appelle le blasphème, ça touche une entité qui peut être considérée comme supérieure, mais qui est une entité abstraite et qui n'est pas composée d'individus concrets. Ce n'est pas une atteinte à des groupes de personnes en tant que groupe de personnes. Ce n'est pas une atteinte aux chrétiens ou aux musulmans ou aux protestants ou aux hindouistes ou que sais-je. C'est une atteinte à une entité supérieure qui est un symbole, qui est quelqu'un qui peut exister ou ne peut pas exister suivant les pensées que l'on en a, mais ce n'est pas une atteinte à des personnes.
Et cela a été la conviction de ceux qui ont voté la loi du 29 juillet 1881, loi fondamentale, loi de libéralisme résolue, plus grand que dans tout autre pays voisin en Europe. Ils ont eu la conviction qu'il fallait en effet autoriser en fait le blasphème. Et la relecture des débats qui ont préparé cette législation est tout à fait éclairante et conduit à nouveau, me semble-t-il, à certaines des interrogations d'aujourd'hui.
Oui, ce qui est intéressant, c'est que c'est une loi qui date du 29 juillet 1881, qui est donc 25 ans avant l'instauration de la laïcité. On n'est pas encore dans la République laïque. Hein. Et pourtant, déjà, on se pose la question du blasphème, de l'atteinte à la République par les mots, hein, de tout ce qui est incitation, provocation, apologie. Et évidemment, c'est là qu'on doit rentrer dans les débats qui sont pendant deux ans. Hein. Pendant deux ans, il y a une commission présidée par Émile de Girardin, celui qui est l'empereur de la presse de l'époque, qui est aussi député et qui malheureusement meurt quelques mois avant d'être le vote de la loi, mais qui pose dès le début la question en disant « La presse sans l'impunité, ce n'est pas la presse libre, c'est la presse tolérée, c'est la presse ayant pour juge l'arbitraire, l'ignorance et l'intolérance. » Et c'est là où, véritablement, le débat est posé, c'est-à-dire qu'il faut savoir si on met un certain nombre de limites à la liberté de la presse, et au sens large, de l'expression des idées, des opinions et des informations.
Il y a, de ce fait, à la tribune notamment de la Chambre, mais aussi au Sénat, un certain nombre de bons républicains qui disent « Vous avez protégé naguère, ou jadis, le régime monarchique contre des atteintes spécifiques, la République ne pourra pas supporter de n'être pas protégée elle aussi. Il faut protéger contre les attaques l'abstraction République, car sinon vous serez renversé par vos adversaires. Oh mes amis républicains, à quoi naturellement s'oppose avec une grande vigueur Georges Clémenceau en particulier.
Bien sûr, alors il faut bien voir que Georges Clémenceau c'est le héros de la liberté, hein, et il dit dans un grand discours justement en 1881, la République vit de liberté. Elle pourrait mourir de répression comme tous les gouvernements qui l'ont précédée et qui ont compté sur le système répressif pour les protéger. Et donc, on peut continuer, etc. Il termine sa péroraison en disant « Répudiez l'héritage de répression qu'on vous offre et fidèle à votre principe, confiez-vous courageusement à la liberté. » Et c'est un très beau texte, alors il faudrait pouvoir en lire la totalité parce qu'il fait une page entière et j'ai pas le temps de le lire, mais c'est un très beau texte et qui montre que c'est par la liberté qu'on pourra faire progresser la démocratie, l'opinion, l'information des citoyens, l'éclairage au sens des lumières. Et ce qui est symptomatique, c'est que la loi de 1881 a été votée à quasi-unanimité, sauf quatre députés qui étaient des vieux robespierristes, des blanquistes, des terroristes, des futurs staliniens, si je puis dire, enfin pour faire un peu des concordances de temps qui sont malvenues. Mais donc, il n'y a une unanimité pour dire la liberté, et y compris, il n'y a pas d'outrage. S'il y a un outrage, il n'y a pas d'outrage à la République, pas d'outrage au drapeau, pas d'outrage à Marianne, au symbole de la République, etc.
S'il y a une telle majorité autour de cette loi, c'est parce que les Républicains se sentent dans la ligne de leur combat sous le Second Empire, qui a été une période encore de très forte répression, une promesse tacite de la République au suffrage universel, dit un des rapporteurs de la loi. Et en même temps, parce que à l'extrême gauche et surtout du côté des monarchistes, on pense qu'aucun régime ne peut résister à une liberté absolue et que cela permettra d'ébranler la Troisième République détestée. Donc c'est le seul cas d'une loi de progrès majeur où se retrouve une telle unanimité.
Oui, les monarchistes espéraient, pensaient qu'ils pourraient développer leur propre presse, qu'ils attaqueraient à bras raccourcis la République et qu'ainsi ils la feraient tomber. Ils ont eu tort, ils n'ont pas pu le faire, mais ils ont donc voté cette loi.
Clémenceau et ses amis obtiennent donc qu'on ne sacralise pas la République et qu'on ne la protège pas contre les offenses. En revanche, le débat continue sur la question de la défense contre les outrages du président de la République, qui est l'incarnation humaine de ce régime. Dans un premier temps, Clémenceau obtient qu'on ne puisse pas punir un outrage au président, et finalement il est battu. Il faudra attendre 2013, tout récemment, un changement de législation pour que le président de la République cesse d'être, en tant que tel, protégé spécifiquement.
C'est la partie de circonstance de la loi, c'est-à-dire qu'on sent bien que le président de la République, il faut quand même incarner un tout petit peu le pouvoir en France. Et il y a aussi interdiction de faire des outrages au président de la République, mais aussi aux chefs d'État étrangers, parce qu'on est à l'époque où la République est très isolée, où il y a une coalition des monarchies contre la République, et donc on ne veut pas envenimer les débats, et c'est pour ça qu'on préserve ces deux institutions que sont le président de la République et les chefs d'État étrangers. Et là aussi, ça tombera dans les années 2000.
À l'armée aussi, aux militaires. Alors, parce qu'on est en période de recueillement après la défaite de 70-71.
Oui, il faut laisser de côté les militaires, effectivement, qui sont relativement protégés, parce que sinon, on mettrait en cause la défense nationale et la revanche potentielle qu'on va prendre sur l'Allemagne quelques temps plus tard.
Il y a un autre débat qui nous intéresse en 81, c'est le débat sur la question des bonnes mœurs. Car la majorité de ces bons bourgeois estiment que chacun peut comprendre ce que c'est que les bonnes mœurs, la lutte contre les obscénités dans les kiosques ou ailleurs. Mais un certain nombre de parlementaires plus fins disent attention. Attention, en fait, c'est très daté, les bonnes mœurs. Peut-être que les choses évolueront.
Oui, à l'époque, par exemple, l'homosexualité était considérée comme un délit. Maintenant, évidemment, il n'en est plus question. Il y a toute une série de problèmes sur les bonnes mœurs. Est-ce qu'on a le droit de montrer, de ne pas montrer une partie de nudité, etc., que ce soit des femmes ou des hommes? Ça pose deux grandes questions. Mais finalement, on se maintient au fait que c'est plus les images qui peuvent choquer. Et là, c'est peut-être le problème contemporain qu'on retrouve avec la télévision, avec Internet. Les images peuvent choquer plus facilement que les textes. Et donc, on introduira après la loi de 1880 un certain nombre de restrictions sur l'affichage des images dans les kiosques à journaux, des choses comme ça.
Il y a un procureur monarchique qui dit avec quelque sagesse, en tout cas à nos yeux, les mœurs, qu'est-ce que c'est, ça va changer? Elles n'étaient pas, dit-il, dans l'Antiquité ce qu'elles sont aujourd'hui. Elles ne sont pas dans les pays chrétiens ce qu'elles sont dans les autres pays. Vous aurez donc l'arbitraire à craindre quand il s'agira d'appliquer votre article. On voit bien aujourd'hui, avec l'évolution du temps, que tout ça, comme vous le disiez il y a un instant, Patrick Evenot, peut largement évoluer et du même coup, la loi devient éventuellement obsolète.
Elle est obsolète et surtout, elle n'est pas appliquée. Elle est très peu appliquée parce que ça ne... Comme la loi prévoit que les délits de presse seront placés dans une chambre particulière, la 17e chambre du tribunal. À l'époque, c'est la cour d'assises et puis ensuite la 17e chambre du tribunal correctionnel. C'est une chambre particulière qui a jugé des délits de presse. Et donc, on ne peut pas poursuivre n'importe qui, n'importe comment sur les délits de presse.
Un autre débat de 1881 à la tribune de la Chambre et à la tribune du Sénat concerne la question de la provocation. En particulier, si on provoque le public ou tel individu à un délit, est-ce qu'on doit être puni et est-ce qu'on doit être puni plus largement si on risque de provoquer sans qu'aucun délit ou crime ne s'ensuive ?
Alors ça, c'est la grande question. Provoquer ou inciter à commettre un crime ou un délit ? Et Charles Floquet répond magistralement en disant « provoquer ». C'est parler ou écrire sur une question quelconque. C'est un acte de la pensée humaine, c'est l'expression d'une opinion. Elle peut être détestable, criminelle, fatale aux yeux de la morale, elle peut avoir tous les caractères que vous voudrez, elle ne devient criminelle ou délictueuse que si vous décidez que vous frapperez dans une mesure quelconque les délits d'opinion. Tant qu'il n'y a pas d'acte corrélé directement à l'incitation ou à la provocation, on ne peut pas réprimer la pensée humaine.
Il ne peut pas y avoir de frontières claires, dit Floquet, qui est un grand républicain aussi. C'est lui qui avait interpellé le tsar quand il était venu dans les années 60 sous le Second Empire. Vive la Pologne, monsieur! Donc Charles Floquet dit qu'il ne peut pas y avoir de frontières claires entre une discussion animée, ardente, mais légitime, et une provocation et une complicité criminelle.
Ça fait partie de la discussion. Alors, c'est toute la question actuelle qu'on retrouve maintenant. Est-ce que quand on a une discussion dans une école, dans une cour de récréation ou dans une chambre particulière, qui peut être un peu vive et monter et dire « je suis solidaire des terroristes », est-ce que ça devient tout de suite un délit? Est-ce que c'est la volonté de passer à l'acte et de tuer des gens qui n'a jamais eu envie, dans la pensée ou parfois dans l'expression, de tuer ses voisins, son père, sa mère ou sa petite sœur.
Je m'en remets à votre témoignage à cet égard, cher Patrick Evenot. Et il faut maintenant en venir à la décennie suivante, puisque c'est le moment où surviennent les attentats anarchistes et où, par conséquent, le libéralisme très très marqué des républicains de 1881 va se trouver affronté à un vrai défi. Et là encore, la manière dont la démocratie réagit à ce défi peut sonner très actuelle. Alors pour recréer l'atmosphère, cette chanson de 1894 qui s'appelle « La Ravachole », je rappelle que Ravachole a été un des anarchistes qui est allé jusqu'à l'action par le fait et qui a fait sauter avec la dynamite, qui est une terreur spécifique pour le monde de l'époque, la dynamite, avec de la dynamite, a fait sauter deux immeubles et a fini naturellement sur l'échafaud.
Dans la grande ville de Paris,
dans la grande ville de Paris,
il y a des bourgeois bien nourris,
il y a des bourgeois bien nourris.
Il y a les miséreux qui ont le ventre creux. Ceux-là ont les dents longues,
vive le son, vive le son.
Ceux-là ont les dents longues, vive le son de l'explosion.
Dansons la ravachole, vive le son, vive le son. Dansons la ravachole, vive le son de l'explosion.
Il y a les magistrats vendus,
il y a les magistrats vendus.
Il y a les financiers ventrus,
il y a les financiers ventrus.
Il y a les argousins, mais pour tous ces coquins, il y a de la dynamite,
vive le son, vive le son.
Il y a de la dynamite, vive le son, l'explosion.
Dansons la ravachole, vive le son, vive le son. Dansons la ravachole, vive le son, l'explosion.
Il y a les sénateurs gâteux,
il y a les sénateurs gâteux.
Il y a les députés véreux,
il y a les députés véreux.
Il y a les généraux, assassins et bourreaux. Boucher en uniforme,
vive le son, vive le son.
Boucher en uniforme, vive le son de l'explosion.
Dansons la ravachole, vive le son, vive le son. Dansons la ravachole, vive le son de l'explosion.
En nom de Dieu, faut en finir.
En nom de Dieu, faut en finir.
Assez longtemps, j'aimerais souffrir.
Assez longtemps, j'aimerais souffrir.
Pas de guerre à moitié, plus de lâche pitié. Mort à la bourgeoisie,
vive le son, vive le son.
Mort à la bourgeoisie, vive le son d'explosion.
Dansons la ravachole, vive le son, vive le son. Dansons la ravachole, vive le son d'explosion.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Notable résurgence, Patrick Evenot, de la Carmagnole.
Oui, c'est la Carmagnole revisitée par Ravachol. Alors, on est vraiment dans un moment de tension extrême. Hein. En 1893, Vaillant pose une bombe à l'Assemblée nationale qui fait quelques blessés. En 1894, le président Sali Carnot est tué par un anarchiste italien, Caserio. Et donc, il y a deux lois qu'on a appelées ensuite les lois scélérates, 12 décembre 1893 et 28 juillet 1894, qui introduisent dans la loi de 1881 la répression de l'apologie des crimes ou des délits. Eugène Pelletan, le rapporteur au Sénat en 1881, avait répondu à l'avance. Il avait dit « Tout ce qui peut être dans le passé délit d'opinion disparaît du projet. La loi ne punit que l'acte. La pensée n'est pas un acte. » Donc, plus de poursuites pour apologie de faits qualifiés de crimes ou de délits. Ça, c'était en 1881. Et en 1893-94, on a des lois qui sont des lois de circonstance. Qui sont des lois de circonstance parce que on a eu des attentats anarchistes, donc il faut éviter qu'on en fasse l'apologie. Léon Blum, Francis de Pressensé, un des fondateurs de la Ligue des droits de l'homme, Léon Blum, le célèbre socialiste, s'élève contre ces lois scélérates qu'il considère comme étant des lois qui diminuent considérablement la liberté d'expression, la liberté de la presse, et donc les capacités de la démocratie à vivre en société.
Et les socialistes craignent beaucoup que ces lois destinées à réprimer l'anarchisme ne puissent nuire à leur propre développement.
Elles ont été utilisées à plusieurs reprises, de l'anarchisme au socialisme révolutionnaire, du socialisme révolutionnaire au socialisme démocratique. Il n'y a qu'un glissement sémantique et évidemment on peut s'en servir contre les socialistes. Et Jean Jaurès s'élève, lui, contre la loi, non pas en considérant que la loi est une répression antilibérale, mais en considérant qu'il faut d'abord soigner la cause des attentats et non pas s'occuper de la propagation éventuelle par la presse de l'apologie des crimes.
Nous avons entendu Manuel Valls, le Premier ministre à l'Assemblée nationale, le 13 janvier dernier, qui disait « à une situation exceptionnelle doivent répondre des mesures exceptionnelles, mais je le dis aussi avec la même force, jamais des mesures d'exception qui dérogeraient aux principes du droit et des valeurs ». C'est important parce que c'est juste le contraire du Patriot Act après le 11 septembre aux États-Unis.
Oui, parce qu'aux États-Unis, ils ont à la fois une beaucoup plus grande liberté qui est sanctionnée depuis le premier amendement de 1791 qui interdit au Congrès de faire une loi limitant la liberté d'expression et de la presse, donc c'est lié tout à fait, et donc ils ont une très grande liberté, ils comptent sur la société civile pour faire taire éventuellement les racistes, etc. Mais ils ont aussi pris des mesures extrêmement dures après les attentats du 11 septembre parce qu'ils voulaient contrôler la diffusion des informations, les réseaux, et donc on a ce qu'on appelle le Patriot Act, qui est extrêmement répressif par certains côtés.
À relire, une fois encore, les débats de 1881, on ne peut qu'être sensible au fait qu'un certain nombre de préoccupations d'aujourd'hui sont en gros absentes. Je pense notamment à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, peut-être parce que les parlementaires en majorité pensaient à l'époque qu'il y avait des races supérieures et des races inférieures, comme l'a dit Jules Ferry contre Clémenceau, mais peut-être aussi parce que le défi était moindre. Il faut y revenir, Patrick Evenot, parce que, encore une fois, c'est une des interrogations d'aujourd'hui. Pourquoi, dans cette émission consacrée à la liberté de la presse, pourquoi refuser le racisme et pourquoi accepter le blasphème ?
Alors, c'est toute la question, mais peut-être qu'on peut revenir à l'idée des années 1890, quand Édouard Drummond publie un journal comme La Libre Parole, qui est violemment antisémite, qui est caricaturalement antisémite, et qui n'est absolument pas interdit, parce qu'à l'époque, la liberté est entière et totale. Et puis, petit à petit, on introduit dans le droit français des limitations, parce que le vivre en société, c'est aussi vivre avec des groupes qui ne sont pas forcément comme nous, avec des individus qui ne nous ressemblent pas forcément. La société, c'est pas un miroir tendu à soi-même, c'est un ensemble d'une collectivité. Et donc, il faut introduire progressivement un certain nombre de limitations à la liberté d'expression quand elle est une atteinte directe aux personnes ou aux groupes de personnes en fonction de leur religion, de leur ethnie, de leur origine, etc.
Ce qui, encore une fois, est très différent de la critique à l'égard d'abstraction, de doctrine ou de religion. Monseigneur Frépel, l'évêque d'Angers, disait à Clémenceau: je ne voterai pas la loi parce qu'en supprimant le délit d'outrage à la morale publique et religieuse, aux religions reconnues par l'État, c'est-à-dire à Dieu, à tout ce qu'il y a de plus auguste et de plus sacré dans le monde, elle livre, elle abandonne, elle sacrifie ce qu'elle a le devoir et la mission de protéger et de défendre. On pourrait aujourd'hui dire la même chose de l'islam, pratiqué par nos compatriotes musulmans. Et au contraire, on a vu que des gens comme Clémenceau et les autres disent non, que la religion se défende, elle est capable de le faire toute seule.
Elle est capable de le faire toute seule. Et puis ensuite, il y a la loi de 1905 qui fait que la République ne reconnaît ni ne salarie aucun culte. C'est ça les termes de la loi de 1905. Et donc, tous les cultes peuvent exister. On a une liberté totale de conscience et d'expression. Mais on ne doit pas pouvoir reconnaître un culte pas plus les uns que les autres. Et donc, on peut évidemment critiquer toutes les religions et on peut blasphémer tous les dieux, quels qu'ils soient.
Alors que le racisme, l'antisémitisme, c'est tout autre chose.
C'est une atteinte, encore une fois, à des groupes de personnes, à des êtres humains. C'est pas une atteinte à des entités spirituelles. On peut critiquer la pensée démocratique, on peut critiquer les dieux, les divers dieux qui existent dans les consciences des hommes, mais on ne doit pas attenter aux personnes humaines et aux groupes humains.
L'entre-deux-guerres voit surgir de façon plus vive qu'auparavant le péril de la liberté absolue, en particulier pour ce qui est de la défense des personnes. Naturellement, l'antisémitisme, mais même simplement la calomnie envers tel ou tel acteur. Et chacun pense au drame du suicide de Roger Salengro, le ministre de l'Intérieur du Front Populaire, qui n'a pas supporté des attaques d'une violence extrême venues de la presse d'extrême droite sur son comportement pendant la Grande Guerre. Je vous propose d'écouter à cet égard le discours de Léon Blum sur le cercueil de son ami Salengro, prononcé à Lille, Salengro était maire de Lille, prononcé à Lille le 22 novembre 1936, qui pose tout droit la question de la diffamation et de ses ravages.
La calomnie doit être confondue et châtiée, et elle le sera. La mort de Roger Salengro a fait sentir cette nécessité à la France entière, et nous devrons encore à notre ami cette gratitude d'outre-tombe. Un groupe de professeurs, d'écrivains, d'artistes, étrangers à tout parti politique, dénonçait hier l'écrasante responsabilité encourue par ceux qui osent parler sans preuve contre l'honneur d'un homme, par ceux qui lancent contre un adversaire des accusations de telle nature qu'aucune réfutation ne peut jamais ôter le doute introduit en des esprits passionnément prévenus. C'est bien là le mal. Il n'y a pas d'antidote contre le poison de la calomnie. Une fois versé, il continue d'agir, quoi qu'on fasse, dans le cerveau des indifférents, des hommes de la rue, comme dans le cœur de la victime. Il pervertit l'opinion, car depuis que s'est propagée chez nous la presse de scandale, vous sentez se développer dans l'opinion un goût du scandale. Tous les traits infamants sont soigneusement recueillis et avidement colportés. On juge superflu de vérifier, de contrôler, en dépit de l'absurdité parfois criante. On écoute et on répète, sans se rendre compte que la curiosité et le bavardage touchent de bien près à la médisance, que la médisance touche de bien près à la calomnie, et que celui qui publie ainsi la calomnie devient un complice involontaire du calomniateur. Il faut donc tarir la calomnie à sa source.
Il me semble vraisemblable, Patrick Evenot, que vous jugerez comme moi que certains aspects de ces propos de Léon Blum en 1936 prennent une couleur toute particulière et très vive au moment où Internet triomphe.
Oui, alors là, il est évident que la calomnie, c'est peut-être la plaie de la liberté de la presse, mais c'est le dégât collatéral qu'il faut accepter. Et effectivement, maintenant, avec les systèmes modernes, Facebook, Twitter et tous les autres, qui nous permettent de dire ce que l'on veut en temps immédiat et à l'ensemble de la planète ou à l'ensemble de notre communauté ou à d'autres gens, ça permet de renforcer la calomnie. Mais c'est pas pour ça qu'il faut limiter la liberté de la presse, parce que ça fait partie des dégâts collatéraux. Sinon, on limite totalement la liberté, on tombe dans un système dictatorial qui empêche de s'exprimer.
C'est tout juste avant la Seconde Guerre mondiale que la Troisième République en vient à incriminer les comportements racistes ou antisémites. Le Front populaire de Léon Blum avait songé à élaborer une nouvelle législation qui s'était enlisée.
Oui.
Le 21 avril 1939, on voit publier le décret-loi Marchandeau, aujourd'hui on dirait ordonnance, Marchandeau du nom d'un ministre du temps, qui prévoit des poursuites, je cite, « lorsque la diffamation ou l'injure commise envers un groupe de personnes appartenant par leur origine à une race, on dirait plus race aujourd'hui après la Shoah, à une race ou à une religion déterminée, ou une religion, aura eu pour but d'exciter à la haine entre les citoyens ou les habitants. » Je n'ai pas besoin de vous dire que ce texte a été supprimé par Vichy dès son arrivée au pouvoir.
Bien évidemment. Et elle n'a même pas eu le temps d'être appliquée sous la Troisième République finissante. Donc là, on prend conscience que le racisme est un des fondements de la haine antidémocratique et évidemment de l'hitlérisme et du nazisme. Là, c'est une atteinte véritable à des hommes, à des femmes, à des groupes, en tant qu'êtres humains collectifs, etc. Donc là, on commence à appréhender un certain nombre de questions sur la limitation de la liberté d'expression. La première loi qui limite véritablement, c'est en 1951. C'est au moment où on prend la première amnistie des criminels de guerre, des collaborateurs, etc. Et on dit, on va vous rendre la liberté, mais on ne va pas vous rendre la liberté de parler et de faire l'apologie de ce que vous avez fait. On veut bien vous libérer, mais vous n'aurez pas le droit de faire l'apologie des crimes de guerre et des délits de collaboration avec l'ennemi. C'est la première, elle est toute timide, mais ça permet de faire taire un peu les Bousquet et autres gens du même genre. Puis ensuite, la loi importante, c'est celle de la loi Pleven, donc de 1972, du 1er juillet 1972.
Il est garde des Sceaux de Georges Pompidou.
Garde des Sceaux de Georges Pompidou, au moment où apparaissent toute une série de mouvements qui sont d'une part négationnistes, qui sont d'autre part antisémites, etc. Et la loi Pleven, donc, ajoute le délit de provocation à la discrimination, la haine ou la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. C'est particulièrement clair, c'est une personne ou un groupe de personnes. Encore une fois, c'est un appel à la haine contre une personne ou un groupe de personnes. On n'en parlait plus le mot race maintenant, mais nation, ethnie, religion déterminée. On n'a pas le droit d'appeler au meurtre des juifs ou des musulmans, mais en revanche, on peut continuer à blasphémer sur Allah, Yahvé ou Jésus-Christ.
On peut s'en prendre à l'islam ou au judaïsme,
bien sûr,
autant qu'au christianisme.
Ce sont des idées, donc on peut s'en prendre à toutes les idées, on peut s'en prendre à l'idée démocratique ou à l'idée religieuse, mais en revanche, on ne peut pas s'en prendre à des chrétiens ou à des musulmans en tant que chrétiens ou musulmans.
Et c'est au fond ce que prolonge la fameuse loi Guesso qui vient incriminer la négation d'un certain nombre de crimes contre l'humanité, en particulier la négation du massacre des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale.
Oui, alors la loi Guesso de 1990, c'est parce qu'on s'aperçoit bien que Jean-Marie Le Pen notamment utilise le négationnisme, la relativisation de la Shoah pour faire de l'antisémitisme. Et donc on essaye de le faire taire, et c'est sur l'ensemble des crimes contre l'humanité. Ça ne concerne pas que la Shoah. On n'a pas le droit de nier l'existence de crimes contre l'humanité, que ce soit le génocide arménien, le génocide rwandais, le génocide khmer ou la Shoah. On n'a pas le droit d'en faire la négation totale. Et c'est effectivement une police de la pensée. C'est ça qui est la limite de cette expression. On voit bien, par exemple, qu'en Angleterre, il n'y a pas la sanction du négationnisme. Les négationnistes, les pseudo-historiens négationnistes anglais peuvent discuter librement de leur thèse. Il y en a même un qui a été arrêté une fois parce qu'il s'est rendu en Autriche, mais quand il est en Angleterre, il est parfaitement libre de dire toutes les élucubrations qu'il veut. C'est effectivement là où est la limite de la différence entre la liberté de penser et la liberté d'exprimer des opinions qui sont de fait raciste.
Évidemment, les historiens ont mis en cause cette législation des lois mémorielles, mais cela nous conduirait un peu loin avec l'idée que cela risque de limiter la liberté d'expression, encore une fois, et que ça ait la liberté de recherche des disciplines historiques, et en affirmant, en marquant que les travaux d'historiens ont notamment beaucoup plus contribué à refouler les ignominies du négationnisme que n'ont pu le faire les interdictions légales. Mais c'est un débat que nous n'ouvrirons peut-être pas aujourd'hui, Patrick Hebnaud.
Oui, parce qu'il y a déjà eu des procès contre des historiens faits par des négationnistes, antinégationnistes, etc. Bon, à chaque fois, on voit bien que la liberté de la recherche reste entière. Donc, on pourra parler de cela peut-être une autre fois. Mais parce qu'il faudrait aussi parler de ce qui choque la population, une fraction de la population, et il faudrait parler sans doute du rôle de la Cour européenne des droits de l'homme dans cette affaire. Je crois que la Cour européenne des droits de l'homme, c'est pas la Cour de Bruxelles, c'est pas la justice de l'Union européenne, c'est la Cour du Conseil de l'Europe qui regroupe 40 et quelques pays européens. Il y a eu une convention, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui était signée à Rome en 1950, hein, donc c'est une affaire assez ancienne. Et quand on a épuisé toutes les voies du droit dans son pays d'origine, on peut porter son action devant la Cour de justice. La Cour européenne des droits de l'homme dit clairement que la liberté d'expression vaut non seulement pour les informations ou les idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l'État ou une fraction de la population. C'est le fameux arrêt Handyside de 1976 et qui dit clairement que la liberté d'expression, ça peut être aussi la liberté de choquer. Mais ce n'est pas la liberté de s'attaquer à des personnes ou des groupes de personnes nominalement en fonction de leur religion ou de leur ethnie.
C'est là que la notion de fraction de la population est assez difficile à manier. On retrouve toujours la difficulté qu'on éprouve à faire le départ très clairement entre l'autorisation du blasphème et l'incrimination du racisme. Néanmoins, on trouve assez facilement le chemin, non ?
Oui, on trouve facilement le chemin parce que l'arrêt en dit ça, il parle des informations ou des idées. Il ne parle pas des appels à commettre des meurtres, des actes, ou etc. Il ne parle que des informations ou des idées qui peuvent être évidemment inquiétantes pour certaines personnes parce que ça met en cause leur culture, leur religion, ou etc., ou que sais-je encore. Mais ça peut les choquer, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut en interdire l'expression.
Dans cette ligne, comment doit-on, comment peut-on, Patrick Evenot, à vos yeux, situer la loi dite Cazeneuve de 2014 qui fait un délit de l'apologie du terrorisme ?
C'est une vraie question parce qu'on a bien vu que l'apologie du terrorisme, c'était la même chose que l'apologie de l'anarchisme de 1893-94. Cette loi Cazeneuve, elle est importante parce qu'elle sort du code de la presse, de la loi de 1881, le délit d'apologie du terrorisme, et le transmet à la juridiction correctionnelle ordinaire. Et on a bien vu qu'il y a eu quand même un certain nombre de dérapages des juges correctionnels qui ont sanctionné à tour de bras dans les semaines qui ont suivi l'attentat contre Charlie Hebdo, peut-être simplement des propos de gens qui sont un peu malades dans leur tête ou qui sont un peu ivrognes ou qui sont un peu dans les cours de récréation et qui disent n'importe quoi et que peut-être ce n'est pas évidemment de l'apologie véritable du terrorisme.
Merci Patrick Evenot de nous avoir aidé à considérer l'histoire de la liberté de la presse dans son émergence, dans son affirmation et en même temps quant aux difficultés qu'elle peut parfois rencontrer à définir ses propres limites, limites indispensables, limites inévitables, mais limites dont l'appréhension doit être très claire dans l'esprit, je crois, des citoyens et des concitoyens. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est probablement possible. En tout cas, j'espère que nous y avons contribué. Vous êtes l'auteur de nombreux et précieux ouvrages sur l'histoire de la presse. Par exemple, ceux que vous avez consacrés à un grand quotidien du soir, je veux dire Le Monde, à diverses reprises. Vous êtes aussi l'auteur d'une histoire de la presse française de Théophraste Renaudot à la Révolution numérique chez Flammarion, 2012. C'est votre ouvrage, peut-être pas le plus ambitieux, mais qui en tout cas ouvre sur la plus large durée de temps.
Oui, c'est une synthèse d'un vieux professeur qui peut se permettre de ne plus mettre de notes de bas de page, mais de donner un peu de souffle et faire rentrer le grand public par différentes entrées, notamment par des photos, par des images, etc.
Vous avez également publié une anthologie précieuse d'articles sur le journalisme français, J'accuse et autres grands articles parus en 2010, une coédition Le Monde et Flammarion. Vous trouverez bien sûr beaucoup d'autres ouvrages, il ne manque pas sur cette grande question de l'histoire des médias. Vous les trouverez sur notre site, avec les références des documents sonores que nous avons utilisés. Vous pourrez, vous le savez, écouter, réécouter et conserver cette émission, ce qui vous permettra de la confronter dans l'avenir avec la suite des événements. Le samedi prochain, nous parlerons, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, des religions et de leurs relations avec les images, certaines de ces religions étant iconoclastes et d'autres iconodoules. Mots savants que nous aurons à éclairer. Je recevrai pour cela Patrick Boucheron. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, une émission préparée avec l'aide précieuse de Jeanne Guéroux, avec aussi Nathalie Lempereur, une émission réalisée par Patrick Molinier, avec à la prise de son Emmanuel Morse-Duncan, à la discothèque Nathalie Rouvillain, et pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, Sandra Escamez. Nous avons aussi bénéficié, comme chaque semaine, de l'aide précieuse des documentalistes de la Bibliothèque de Radio France. Et maintenant, comme chaque semaine, j'ai le plaisir de passer le relais à Dominique Rousset pour l'économie en question.